Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci. Vous savez que le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver sur la 93.5 quand il sonne 11h. Vous savez que c'est le rendez-vous chaque jour, hein, de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous sommes ensemble pour le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Les préparatifs liés aux prochaines législatives sont en cours après la rencontre du CPC pour discuter de différentes conditions liées à ces élections. La CENI, l'organe en charge de l'organisation, a réceptionné hier l'encre indélébile à utiliser lors de ces élections. L'encre sera ensuite soumise à un test à l'université de Lomé pour s'assurer de sa fiabilité. Nous allons aborder le sujet dans cette émission. Nous parlerons également d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 21 mai 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Soussa assure la mise en onde. Jérôme Akouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapan. Vous le savez bien, vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre à travers nos radios partenaires en ligne Ibene Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. L'équipe de mercredi se met déjà en place. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, et à part tout ce qui ne va pas, le reste, ça va.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, aux lecteurs de Gazelle Info, je n'oublie pas les techniciens. Mais permettez-moi d'entrer de faire une petite remarque là, si par rapport au bus Sotral dans la circulation. Plusieurs fois, j'ai assisté à des scènes de conduite de Sotral en circulation sans interpelle. Ils se considèrent carrément comme des véhicules prioritaires. Ça sort des virages avec à une vitesse exponentielle. Le code de la route est carrément bafoué et c'est pas du tout sécurisé pour les usagers de la route. Donc vivement que cet état de choses soit vraiment discuté et qu'il y ait un recyclage, une formation continue au niveau de ces conducteurs, de ces chauffeurs du bus Sotral pour une circulation beaucoup plus apaisée.
D'accord, merci Estelle Koudzonou. Je voyais Sylvestre esquisser la tête quand vous étiez en train de parler. Ça veut dire que c'est un constat fait par Sylvestre aussi.
Non, c'est un fait, Et généralement, pour ces genres de véhicules, lorsque vous circulez un peu dans la sous-région, vous verrez que il y a souvent des sous forme d'une forme de vignette, hein, souvent collée à ces véhicules où on dit lorsque le chauffeur conduit mal, on met des contacts, appelez ce numéro. Je crois que si on commence à le faire ici, Hein, une fois qu'on a ces gens de vignette avec des contacts et en circulation, lorsqu'on voit qu'il y a un chauffeur qui est presque devenu un chauffard, là, on appelle ces numéros. Si on le fait une ou deux fois, je crois que ça va véritablement les interpeller à être un peu plus aux chauffeurs dans la circulation que des chauffards. Quoi.
D'accord. Voilà. Je pense que même avec cette situation, si c'est possible, on peut mettre les commandants derrière. N'est-ce pas, commandant? Bonjour.
Je pense que si on va mettre les commandants derrière, c'est que tous les conducteurs de ces bus-là doivent avoir un commandant au bord. Donc, je pense que c'est la prise de conscience. Vous savez, je salue d'abord tous les auditeurs, autrices de la radio et tous les confrères qui sont ainsi présents et consoeurs. Je profite aussi de l'occasion pour te présenter mes condoléances les plus sincères.
Merci beaucoup.
Ce n'est pas facile. Donc, je pense que par rapport à cette situation, c'est que dès le départ, lorsque les bus Sutra sont arrivés, vous allez voir que dès leur démarrage auparavant, lorsque la société est arrivée en même temps, on a mis derrière céder le passage. Céder le passage, ils ont écrit. Et ça fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens là se croient prioritaires. Mais depuis quelques temps, c'est comme lorsque nous avons parlé de ça, ils ne mettent plus céder le passage. Mais ces chauffeurs-là, il faut les sensibiliser pour leur dire que vous êtes des conducteurs, vous êtes des usagers de la route comme tout le monde, vous n'avez pas la priorité. On ne peut pas vous céder le passage parce que vous utilisez la même chose. Vous n'êtes pas une ambulance pour qu'on vous aide le passage. Vous n'êtes pas une voiture prioritaire pour qu'on vous cède le passage. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans leur tête au lieu de parler de mettre un commandant à bord pour les surveiller. Donc je pense que c'est comme ça, c'est une prise de conscience qu'il faut faire.
D'accord, c'est une prise de conscience et je pense que cette prise de conscience doit être personnelle au niveau même d'ailleurs de ces chauffeurs. Merci hein, d'avoir évoqué le sujet.
Je vais ajouter par rapport à ça que là où ils ont mis Soutral, arrêt, bien Soutral, une fois devant moi, il y a un taxi qui s'est arrêté sur l'on avait une bus Soutral pour embarquer un client. Mais le bus Soutral, c'est à Tochi. Le bus Soutral est venu cogner, marcher sur cette voiture parce que pour lui, ce n'est pas son stationnement. Vous voyez?
D'accord. Badiat, on a dit bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça pose un problème de santé de ces chauffeurs-là.
Justement. vous avez bien fait quand même cette transition. Ça pose justement un problème de santé.
Mental,
on ne sait pas trop. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va, pas la grâce.
D'accord.
Ça va, oui. Si vous êtes avec nous, c'est parce que Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Et vous abordez beaucoup de sujets pour nous alerter, surtout hein, pour ce qui concerne les différentes pathologies et également pour prévenir ces maladies. Ce matin, vous revenez sur l'alimentation. Vous écrivez alimentation avant et après le sport.
Oui, c'est un fait pour lequel on doit bien s'informer. Vous savez, on nous recommande de faire le sport chaque jour. Donc, c'est obligatoire aujourd'hui. Le sport est considéré et est réellement un médicament pour le corps. Et celui qui ne fait pas le sport fait du tort à son corps et à sa santé. Alors maintenant, si on est vraiment pratiquant, dans l'exercice ou bien dans un type de sport. Pour certains, ils aiment prendre quelque chose avant de faire la pratique et pour d'autres, ils ne prennent rien. Mais on a lu une étude qui est sortie tout récemment par rapport à est-ce qu'on doit manger avant et après le sport, qu'est-ce qu'on doit manger. Il y a toutes ces questions qui sont posées et il est dit que ce serait bien parce que c'est vrai qu'il y a cette méthode de faire un sport matinal sur le ventre vide. Ça existe pour ceux qui se connaissent bien par rapport à leur santé. Mais d'une manière générale, d'après cette étude, il est recommandé quand même pour faire un sport de faire ne serait-ce qu'une petite collation, de prendre un fruit parce que ça donne de l'énergie. Surtout quand on se réveille, ça donne un peu d'énergie pour supporter la durance par rapport, en tout cas pendant le sport. Et puis, à la fin aussi, il faut prendre quelque chose parce qu'on a beaucoup dépensé de l'énergie. Et donc, il faut il faut se ravitailler, il faut faire rentrer des nutriments pour être OK et affronter la journée. Maintenant, le problème dans nos communautés, c'est que beaucoup ne prennent rien avant d'aller faire le sport et ils ont des problèmes. Hein. Pendant le sport, il y a des gens qui font des chutes, qui ont le vertige.
Ça, ce n'est pas conseillé.
Qui ont la nausée, pardon.
Et ce n'est pas conseillé de ne rien prendre d'abord avant d'aller au sport. Si. C'est souvent ce qui est fait, c'est ce que nous remarquons.
Oui, c'est ce qu'on dit, qu'il faut se reconnaître, il faut connaître son corps. Ce n'est pas interdit de prendre quelque chose avant de faire le sport, est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, on ne peut pas vous lever, prendre la pâte à pu, aller faire le sport. Ce n'est pas possible d'aller passer chez la femme de com pour aller faire le sport, vous ne pouvez pas, est-ce que vous voyez? Mais on parle d'une collation, d'un fruit, d'un jus de fruits naturel, en tout cas pour vous soutenir. Et puis après le sport, qu'est-ce qu'on doit prendre? C'est ça le problème. Et chez nous, souvent, c'est de l'alcool. Pour ces clubs qui se retrouvent au niveau des stades, au niveau de ces terrains corporatifs et qui sautent sur, soit sur l'alcool, soit les boissons sucrées, industrielles et tout, et tout.
Mais souvent, ce que nous remarquons, c'est qu'après le sport, il y a la troisième mi-temps. Et cette troisième mi-temps est bien garnie avec soit du com, avec de la bière et tout. C'est ce que nous remarquons personnellement, c'est ce que moi je vois.
Ouais, ouais. Pascal, oui, c'est ce que vous venez de dire. Tous on sait cela. Et aujourd'hui, on doit donner la bonne information. Il doit y avoir vraiment troisième mi-temps. Hein, mais il faut bien faire cette troisième mi-temps-là avec des collations qui vont donner des fruits, de bons jus de fruits. Est-ce que vous voyez de la causerie autour, hein, et de la blague autour. Tout ça, là, ça fait partie de l'agrément.
Il y a quelqu'un à la maison qui était posé la question de savoir, mais comment utiliser assez d'énergie et aller prendre du fruit?
Vous irez manger à la maison après, n'est-ce pas? Vous irez manger à la maison après. C'est juste que il y a des gens qui s'organisent, qui vont faire le sport. Ce qu'on mange après, mais ce qu'on boit après, c'est ce qu'on dit. Pas d'alcool, pas de sucrerie industrielle, c'est des jeux nature. Est-ce que vous voyez des fruits, de la causerie, on se fait des blagues et puis on se sépare quand vous arrivez à la maison. Vous allez prendre votre déjeuner, normalement. Est-ce que vous voyez? La troisième mi-temps, elle va aggraver votre santé. Hein, tout ce que vous allez faire comme sport, ça peut revenir à zéro, comme on le dit. Donc, faisons extrêmement attention. Il y a des gens qui vont faire le sport et au sorti du sport, ils n'ont rien fait. Parce que tout ce qu'ils ont pris après, ils n'ont rien fait du tout. Ils retournent à la maison. C'est comme ils étaient sortis, ils sont revenus comme ils étaient, ou bien même pire qu'eux avant qu'ils ne sortent. C'est très important, un article que nous recommandons
à nous tous. Justement, un article que vous recommandez à nous tous, un article à lire. Alors, c'est vrai que le sport, quand on parle du sport, c'est vrai que ça travaille la tête aussi, à ce que nous n'ayons pas du stress. Ou si nous avons du stress, ça nous permet même d'ailleurs d'évacuer ce stress. Mais vous revenez sur l'anxiété et aussi l'insomnie. Vous écrivez anxiété et insomnie, signe d'alerte.
Parce que c'est aujourd'hui un problème. Beaucoup souffrent d'anxiété. Parce que vous voyez notre société avec tous les problèmes possibles qui peuvent tomber sur la tête de quelqu'un. Alors, c'est l'anxiété, cette inquiétude grandissante qu'on a, cette peur, cette projection qu'on a de que quelque chose de mauvais va arriver parce qu'il y a un problème qui est là dans votre vie et vous craignez que cela ne se gâte. Et cela vous accompagne sur le lit avec des mauvaises idées. Et vous allez voir très souvent des gens, ils dorment une heure, deux heures, trois heures de temps après, ils se réveillent. Ils se réveillent et c'est difficilement qu'ils retrouvent le sommeil. Beaucoup de personnes se réveillent à 2 heures du matin, à 3 heures du matin et c'est fini. Hein? Le sommeil ne revient plus. Peut-être qu'ils ont dormi 3 heures de temps avant de se réveiller. Et bon, c'est vrai que chez certaines personnes, c'est pathologique, hein. Ce n'est pas forcément l'anxiété, mais beaucoup de gens souffrent d'anxiété et quand ils se réveillent comme ça, ils n'arrivent plus à dormir. Donc, cette relation entre l'anxiété et l'insomnie s'est bien établie aujourd'hui. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes anxieux, vous allez voir des gens, les symptômes sont visibles, hein. C'est le battement rapide du cœur, voilà, on a un poids au niveau de la poitrine Et très souvent aussi, on a des problèmes au niveau du ventre, on peut avoir les maux de tête, quelques fièvres peuvent arriver. Tout cela mélangé, ça fait que vous êtes quelqu'un, vous sentez que vous n'allez pas bien. Hein, vous n'allez pas bien. Et il faut aller consulter, hein, vous savez, quand on sent que soit on est stressé, soit on est anxieux, il faut aller consulter. Hein, et puis, il y a aujourd'hui un certain nombre d'alimentations, un certain nombre de diététiques qui peuvent accompagner ces personnes. Allez consulter quand vous n'arrivez pas à dormir, en tout cas d'une manière enchaînée pendant la nuit. C'est très important. Un article fait avec des spécialistes que nous recommandons à nous tous.
Justement, un article que vous recommandez à nous tous. Je retrouve un autre article hein, très intéressant. Je sais que ça va intéresser Sylvestre et Abbas. Et pourquoi pas Estelle. Vous écrivez « Echo, vigueur sexuelle chez l'homme ».
Oui, Echo, le poivre de Selim. Cette épice un peu allongée qu'on utilisait très souvent dans le temps en famille qui se trouvait dans la jarre d'eau. Vous savez, avant, le frigidaire, c'était la jarre d'eau. Hein?
Tout à fait.
Ah, très important, qui donnait de l'eau fraîche et puis de l'eau énergétique. Ah, on a plus ça aujourd'hui dans nos maisons. C'est des trucs en plastique et tout, avec ses conséquences. Mais si on peut revenir sur cela, ce serait bien parce que beaucoup d'hommes hein, qui ont atteint cet âge et qui font cette pratique témoignent que cette épice leur permet d'avoir une vigueur au niveau de la sexualité. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une épice qui traite hein, tout le système sexuel. Hein, pour ceux qui ont même des problèmes d'ancienneté, ou bien voilà, il y a aussi des vertus par rapport à cela. Mais ici, nous mettons plus l'accent sur la virilité. Vous savez, on rentre dans le même domaine. Les hommes sont très stressés aujourd'hui. Il y a tellement de problèmes. Hein, quand tu es un homme de famille, madame est là, les enfants sont là, tu es celui qui reporte plus de coups. Hein, quand il y a des problèmes, aujourd'hui, beaucoup de choses sont chères. Ça veut dire beaucoup d'hommes, déjà, vont me dire, sont stressés parce que samedi, il faut que madame aille au marché. Combien on va donner pour faire le ravitaillement? C'est un problème, ce que vous avez. Ou si on veut, doit gagner plus d'argent. Il y a tous ces problèmes, on est stressé. Et le sexe est le premier à recevoir le coup. Donc, vous vous reconnaissez très vite, mais à un moment donné, bon, vous avez envie, mais ça ne passe pas. Et tout le monde est embêté dans le couple. En tout cas, dans cet article, il y a deux recettes qu'on recommandons à tous les hommes. Des recettes qui doivent être récupérées par les femmes à préparer pour leur homme, parce qu'on sait que ça ne va pas côté sexuel. En tout cas, un bon article.
Un bon article. Si ça ne va pas, il faudrait quand même qu'ensemble, qu'on trouve la solution.
En tout cas, voilà. C'est ça.
C'est sûr. Et, alors, vous écrivez également, en revenant sur le sujet du sport, vous revenez sur le sujet et vous écrivez « Sport en famille, bien-être et lien garanti ».
Le sport en famille, aussi une étude que nous avons vue, les résultats sont très intéressants. Dans nos communautés, on ne fait pas, c'est pas régulier. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez une fois vu toute une famille aller faire le sport, ça arrive, mais c'est très rare.
C'est rare, c'est justement, parce que rare, c'est rarissime.
Voilà. Donc souvent, monsieur sort avec ses copains, avec ses amis, avec ses collègues. Et puis, ben, pour les femmes, je ne sais pas comment elles font cela, mais peut-être qu'il y a certaines femmes qui font le sport, une marche avec leur homme. Mais ce qui est ici, c'est toute la famille, l'homme, la femme, les enfants, ont un jeu, hein, soit hebdomadaire, qu'ils pratiquent après que chacun ait fait son sport journalier. On a une pratique hebdomadaire, un samedi par là, un dimanche après-midi par là, mais très tôt le matin. On fait quelque chose. Avant d'aller à l'église lumière, avant d'aller partout, un sport d'une heure de temps, souvent c'est des jeux. Hein. On s'organise en équipe et puis on fait des jeux, on bouge. Et les études disent que l'étude qui est faite par rapport à ça dit que c'est guérissant pour la famille. La guérison psychologique, le lien entre l'homme et la femme, le lien entre les parents et les enfants, c'est un jeu, mais tout ce que ça procure sur le plan de renforcement des liens de la famille, c'est très thérapeutique. En tout cas, on doit s'y mettre, hein, le sport familial, le sport en famille. Et peut-être que, vous savez, sous d'autres cieux, il y a même deux familles qui peuvent s'affronter. Alors, par exemple, la famille de Sylvestre peut s'affronter à ma famille.
S'affronter positivement.
Oui, positivement. On fait le sport. Non, bah, on va vous gagner. Est-ce que vous voyez, on joue au foot, puis au basket, au volley, et tout ça là. Et une heure de temps après, on se sépare dans la bonne ambiance. C'est très important. Ça renforce la famille et ça permet à cette famille d'avancer. En tout cas, c'est un article que nous recommandons à tout un chacun.
C'est un article que vous recommandez à tout un chacun. Tous ces articles, même d'ailleurs, que vous venez de commenter, sont des articles à lire dans votre journal Santé Éducation paru aujourd'hui. C'est à quel prix? Quelles sont les conditions?
Non, le journal, actuellement, c'est à 500 francs, comme on l'a dit. Oui. Pour l'avoir, il faut aller dans certaines pharmacies ou bien s'abonner pour avoir le journal papier. Le site internet www.santéeducation.tg pour télécharger le journal numérique à 500 francs aussi.
D'accord. Merci, Gadiel Tonandi, d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir pour la chronique santé chaque mercredi à travers votre journal Santé Éducation qui paraît chaque mercredi. Merci d'être passé. Oui, Abbas, c'est vrai que quand Gadiel parlait du sujet du sport, surtout de l'alimentation par rapport au sport, je vous ai vu quand même lever votre petite doigt. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose.
Non, c'est par rapport à la troisième mi-temps. Vous savez que...
Je sais que vous êtes un membre de Gaïa Club. Et troisième mi-temps, ça se passe souvent comme ça.
Très souvent, la troisième mi-temps est plus longue même que les deux premières mi-temps. Donc, je pense que je ne sais pas s'il faut prendre en compte. Puisque c'est la troisième mi-temps, très souvent, on vous demande, vous cotisez. Vous cotisez à la fin. Et puis, pour aller, on dit... Il y a dans certains clubs, on dit... Quand vous avez un slogan comme ceci, Gaïa, gagner et jouer, gagner, boire.
Ah,
et, à la fin, ouais. Et à la fin, vous dites...
C'est le slogan.
Le slogan. Troisième mi-temps, toujours gagnant. Quand on dit troisième mi-temps, toujours gagnant, ce qui veut dire que la troisième mi-temps dépasse les deux premières mi-temps. Et une histoire de se retrouver... De rigoler, d'échanger,
de mettre
l'ambiance. Oui. Et ça, là, lorsque vous êtes dans ce groupe comme ça, vous êtes dans l'ambiance, c'est que c'est la boisson qui coule. Et c'est le repas qui coule. Très souvent, on commande. Tous les samedis, allez sous les arbres dans des bars comme ça, vous allez voir. À partir de 10 heures.
Il faut préciser que ça distresse aussi.
Ça distresse.
Le fait de rigoler voilà. Tout, avec quelques histoires et tout.
Ça donne.
Ça participe également.
Il a parlé de stress.
À libérer les stress de la semaine.
Oui, mais c'est bien.
Le fait que Gadiel décrète à ce qu'on puisse interdire les troisièmes.
Je ne pense pas que c'est l'idée de Gadiel.
Non, mais
c'est que déjà, quand nous prenons de l'alcool, nous prenons certains repas et tout, après le sport, c'est que l'énergie que nous avons, nous avons dépensé tout ce que nous avions eu à faire, ça veut dire que ça revient à zéro.
Non, quelques billets à côté de quelques coms aussi.
Finalement, il faut se poser la question, c'est quoi le bien fondé du sport? C'est juste ça, quand on va au sport, c'est pour se maintenir en bonne santé,
tout à fait.
C'est pour perdre en fait de surplus, de graisse et tout. Mais si vous finissez l'activité sportive et en même temps vous commencez par ingurgiter dans des choses, bon, finalement à quoi ça c'est vrai, qu'il y a de l'ambiance, c'est vrai, qu'on se déstresse à travers
des causeries
et tout, mais on finit en même temps du sport et puis on ingurgite peut-être... trois bouteilles, cinq bouteilles de bière fraîche, bien tapées.
Bouffon n'a jamais tué quelqu'un.
À vrai dire, la situation fait tellement du bien à basser de telle enseigne que peu importe ce que nous dirons, ils resteront accrochés.
Non, il faut être clair là-dessus.
C'est important.
On n'a pas dit que la troisième mi-temps n'est pas bonne, mais on dit on peut changer certaines choses dedans. On doit changer certaines choses dedans pour que cela contribue à ce qu'on vient de faire pendant les premiers, deuxièmes mi-temps. Sinon, on risque d'annuler tout ce qu'on a eu à faire. C'est très important. Donc, voilà, ce qu'on mange, ce qu'on boit, on peut revoir ça autrement. Et ça va beaucoup contribuer à la santé de ces gaillards qui sont dans le club.
D'accord. Y compris Abbas.
Qui n'est toujours pas d'accord.
Je reste avec toi pour notre premier sujet de cette émission. Après avoir fait justement cette partie digression qui nous intéresse et nous a permis même d'ailleurs de comprendre un certain nombre de choses sur notre santé, nous allons parler alors de cette augmentation du prix du kilowatt au Togo. Et vous écrivez bien sûr le Mania Libéré, vous écrivez sur le sujet augmentation du prix du kilowatt au Togo, ce qui change pour les consommateurs. Autre journal, c'est Gazelle Info, celle vous aussi, vous êtes intéressé au sujet, vous écrivez hausse du coût de l'électricité, attention à ne pas trop tirer sur la corde. Oui, quand on prend aujourd'hui cette augmentation de prix ou de tarifs de l'électricité, la question que le Togolais lambda se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui explique une telle augmentation.
Oui, bon, selon les informations que nous avons eues, c'est que les explications données, c'est pour améliorer la gouvernance au niveau de la société. Il faut revoir cette gouvernance. Il faut faire des réformes. Et ces réformes sont engagées. Ça ne fait pas du bien pour même certaines personnalités qui sont même dans la boîte, puisque vous savez qu'auparavant, au niveau de la boîte, c'est-à-dire les agents de la société bénéficient d'un traitement préférentiel. Et très souvent, ils ne paient pratiquement pas le courant. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont engagées et ces réformes-là font que on a dû remettre des choses en ordre pour que, au niveau de la société, on puisse avoir une bonne gouvernance, une bonne gestion, pour ne pas tomber dans un problème beaucoup plus difficile vers l'avenir. Donc, il faudrait revoir cette gestion, faire de telle sorte que ceux-là qui ne payaient pas puissent commencer par payer, c'est-à-dire au niveau des agents de la société. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Selon certains recoupements, c'est que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, après de ces réformes-là, c'est que les agents de la société et certaines personnes qui sont exemptées ou bien qui bénéficient de ces traitements préférentiels-là ont commencé par payer. Parce que quand on avait même mis ça, il y avait des bourdonnements au niveau des agents de la société qui ont failli même faire la grève. Ils ont voulu s'attaquer à leur direction générale. Ils ont voulu s'attaquer aussi au ministère, à leur ministre de tutelle. Mais ce n'est pas l'affaire, les réformes engagées, ce n'est pas au niveau du ministère, ni au niveau de la direction, mais c'est au niveau du gouvernement lui-même. Le gouvernement veut revoir les choses et faire de telle sorte qu'on ne puisse pas tomber dans l'abîme après avec l'électricité, parce qu'il y avait trop de mal gouvernance au niveau de cette société. Et aujourd'hui, quand le gouvernement fait des choses, également avec les fraudes sur les compteurs, vous avez vu comment les fraudes sont faites sur le compteur, et selon les infos, ça engrange plus de 20 milliards de francs CFA par an. Les grosses sociétés qui traficotent les compteurs pour leur permettre de faire du profit. Aujourd'hui, il y a certains, même dans ces réformes-là, il y a certains, il paraît, selon les informations, qu'on va mettre la main sur ces trafiquants et traficoteurs de compteurs. Donc, c'est des choses qui sont faites pour remettre sur les rails la société, pour que on ne tombe pas dans le gouffre dans les années prochaines, dans les années futures, puisque vous avez vu les problèmes que nous avons eus, les délestages qui continuent, beaucoup de choses, parce que c'est la mauvaise gouvernance qui fait qu'au niveau de la société, on constate ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut saluer ces réformes-là qui sont engagées au niveau de la société, même si l'augmentation fait mal à toute la population. Il faut faire de telle sorte que cette augmentation-là ne puisse pas puisse profiter également à la population, pour que demain, on ait de l'électricité en continu. Quand vous prenez, je pense que même c'est au niveau du Ghana, même il y a aussi des augmentations. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, parce que quand vous arrivez aussi au Ghana, il y a ce problème de délestage-là qui les dérange. Au Ghana, ils ont mis jusqu'à 14,7% d'augmentation.
Au Togo, c'est 12,5%.
Au Togo, c'est 12,5%. Mmh. C'est des choses qu'il faut revoir et féliciter et faire de telle sorte que si on a augmenté, c'est les explications qu'il faut chercher à donner à la population. Ce qui fait que les populations disent que...
Mais bizarrement, cette explication n'a pas été donnée.
C'est le problème de la communication qui a fait. Donc, il fallait procéder par ça, par là, avant que les gens ne constatent les effets de cette augmentation au niveau de, du journal officiel qui a été rendu public. Alors que c'est depuis mars que cette augmentation a été faite. Donc, c'est les explications... Et il faut commencer aussi par donner ces explications-là et permettre à la population de comprendre le bien fondé.
Merci beaucoup, Abbas. Oui, mais c'est vrai que vous écrivez bien ce titre. Hein. Moi, sincèrement, ça m'intéresse bien. Quand vous dites hausse, alors du coup, de l'électricité, attention à ne pas trop tirer sur la corde. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que on tire sur la corde tellement que la corde sociale est déjà tendue?
Oui, en principe, nous avons essayé de faire une analyse de la situation. La hausse du coût de l'électricité en lien avec la situation économique du pays. Et c'est juste sur du factuel. Ce sont des faits, d'accord. C'était le 14 dernier que la décision a été portée à la connaissance des populations, même si la décision a été signée depuis mars dernier. Ce qui témoigne encore que peut-être nous ne lisons pas, puisque ça a été publié dans le journal officiel, mais on n'avait pas l'information. Mais on ne s'y attendait pas, ça il faut le dire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs mois, il y a un délestage qui s'abat sur le Togo. Donc la logique aurait voulu qu'on apporte d'abord des solutions à ces délestages et stabiliser la fourniture de l'électricité. Et peut-être effectuer des travaux d'extension du réseau pour qu'on ait des arguments convaincants, des travaux qui ont été effectués sur cette base-là. Nous avons besoin des fonds pour compenser en fait des dépenses qui ont été faites et stabiliser la production continuelle de cette énergie. Mais pendant que le délestage continue, nous avons assisté la fois passée à la publication de cette décision-là. Et par manque de pédagogie, j'allais dire, il n'y a pas eu d'information en amont, même à la sortie de la décision. Les raisons qui ont été données, je crois, 2 ou 3 jours plus tard, n'ont pas accompagné cette décision en même temps. Même si on parlait d'une stratégie de communication qui allait accompagner plus tard la mise en œuvre de cette décision. Si on revient un peu sur la mission de la CET, elle a le monopole de la fourniture de l'électricité pour le Togo, sur le territoire national. Pendant ce temps, quand vous allez un peu dans les périphéries, même à Lomé, dans les quartiers périphériques, ils ne disposent pas aujourd'hui de l'électricité. Des habitants ont fait des demandes d'installation à la CET pendant des lustres. Ce n'est pas encore, l'électricité n'est pas encore fournie. Ça, c'est des prestations payantes, normalement. Quand la CET a le monopole de la fourniture de l'électricité, j'estime qu'il y a un plan de distribution qui doit accompagner ça avec un budget qui permet de faire d'abord des installations. Ça permettra également une urbanisation homogène des populations. Puisque aujourd'hui, certaines populations, il y a certaines zones qui sont désertes parce qu'il n'y a pas encore l'électricité. Mais si on assiste déjà à des installations en amont, ça permet aux populations d'aller vers ces zones-là et de demander la consommation de l'énergie. Ça permet à la CET de faire des installations. Comme les installations sont payantes, ça va dans l'intérêt de la CET. Pendant que les demandes sont là, elles ne sont pas encore prises en compte, ou les populations sont obligées de s'adonner aux installations à régner avec tous les risques que ça traîne. On n'a pas apporté une solution tangible et on assiste encore à une augmentation des frais. Il y a certains Togolais qui nous ont accordé des interviews dans l'analyse. Vous allez voir qu'ils sont vraiment vénères par rapport à la situation qu'ils vivent. Quand je remonte un peu dans l'intervention du président de la République d'alors, Fornia Singe, le 27 avril 2023, où il déclarait ceci, je paraphrase un peu, « Certains besoins sociaux doivent être satisfaits. » C'est-à-dire, quand je vis au Togo, je dois avoir l'assurance que j'ai de l'énergie, de l'électricité, l'eau, la santé et l'éducation. C'est-à-dire, on ne doit pas être dans la logique où, depuis 1964, mes grands-parents n'avaient pas l'électricité, aujourd'hui je n'en aurai pas et demain il n'y en aura pas. C'est-à-dire, c'est des besoins sociaux qui doivent être satisfaits. Mais aujourd'hui, quel bilan fait-on de la satisfaction de ces besoins sociaux-là? C'est la grande interrogation. Qu'est-ce qui a abouti aujourd'hui à l'augmentation des frais de l'électricité? C'est parti de quel diagnostic? On a vu, effectivement, par rapport à cette déclaration, des milliards de fonds ont été débloqués par l'État, par le gouvernement, pour soutenir la CET, pour vraiment implémenter cette vision-là par rapport à la structure. Mais quel bilan concrètement on fait aujourd'hui de ces fonds qui ont été injectés pour procéder à cette augmentation-là? Non, interpeller vraiment le gouvernement ou la société elle-même. Si on ne diagnostique pas bien le problème, on a beau augmenter les frais aujourd'hui, le problème va demeurer en fait, parce que c'est comme de l'automédication. Le diagnostic n'est pas posé, on administre juste des médicaments parce qu'on on suppose que c'est ça. Mais si le diagnostic est réellement posé à la base, on trouve que c'est là où se pose le problème, on va apporter une solution idoine et tout le monde est quitte. Donc déjà qu'avec la crise depuis le COVID-19, après la guerre russo-ukrainienne, ensuite les attaques terroristes au nord et dans les pays limitrophes, ça a rendu tellement compliquée la situation économique que procéder encore à des augmentations sans des dispositions préalables, ça risque vraiment de porter un coup dur à toute l'économie du pays. D'accord. Et quand l'économie du pays ne va pas bien, c'est le pays même qui est à terre et ça ne présage pas vraiment de beaux jours devant. D'accord. Vivement qu'une solution interne soit trouvée par rapport à la gestion d'abord. Je prends pour exemple les perspectives annoncées par la sortie finale du ministère qui parlait de bonne gestion des économies, éviter les fraudes et tout, il faut apporter des solutions structurelles d'abord liées à la gestion en interne et voir ce que ça va reverser à la gestion interne de la CET avant d'envisager peut-être des solutions externes qui concernent maintenant les consommateurs que sont les populations.
D'accord. Oui, mais on parle de la vie chère depuis un temps et tout le monde s'accorde à dire que oui, la vie devient de plus en plus chère avec le panier de la ménagère qui est aujourd'hui presque vide. Alors, mais quand le Togolais doit subir encore une augmentation de prix de l'électricité, est-ce que ce ne serait pas trop pour le Togolais?
Non, je crois que c'est trop. C'est trop pour un pays qui, dont la population déjà vit pratiquement sur les rotules. Et demander encore plus aux Togolais, je crois que c'est véritablement trop tiré sur la corde. Et si on ne s'est pas fait un bon matin, ça risque donc de se casser. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le problème du Togo, c'est d'abord une question de volonté politique et l'autre, c'est de la mal-gouvernance. La mal-gouvernance au sommet de l'État, parce que lorsque vous prenez le Togo, déjà, tu vois, je toujours dis que le Togo, c'est un petit pays, ça c'est pas péjoratif. Tout le monde sait que le Togo n'est pas grand. C'est qu'en 6600 km² et depuis 65 ans que le Togo existe, si je parle du fait que nous avions eu l'indépendance, je parle donc de l'indépendance, ça fait 65 ans que nous avons fêté la dernière fois. Il y a eu tellement donc de projets, on nous a fait miroiter des choses, on nous dit, et avec le contour global fini, les questions donc d'électricité dans ce pays, on a injecté des milliards dans le contour global, à la fin, tous les Togolais, les gens sont déchantés. Après, on nous a parlé donc d'autres projets, où on a encore injecté des milliards, quelle efficience power et tout, maintenant. Finalement, on se rend compte que tous les projets annoncés en fanfare, ne serait-ce que pour régler la question énergétique, tous ces projets-là deviennent véritablement des problèmes au Togo. Le cas de la CET interpelle parce que, vous savez, tous les directeurs qui sont passés par là ont justement eu donc des problèmes. Il y a un problème de gouvernance qui se pose à la CET. Et beaucoup le disent. Et on ne fait que changer de directoire sans poser donc les vrais débats, ça faire un audit, savoir en réalité qu'est-ce qui se passe dans la gestion donc de la société, si bien que tous ceux qui sont passés par là n'ont véritablement pas réussi à satisfaire donc les aspirations donc des Togolais. Voyez-vous, lorsqu'on me dit aujourd'hui qu'il y a certains qui fraudent les compteurs et tout, mais est-ce qu'un bon matin on a pu rassembler la presse pour vous dire voilà, nous avons pu arrêter
un réseau donc de fraudeurs, de compteurs, voilà, ça a fait perdre aux Togolais tel montant et tout. Non. Et on dit que oui, il y a certains agents qui ne payent pas donc l'électricité, hein, voire certains officiels togolais qui ne payent pas. Mais comment est-ce que dans un pays on peut avoir donc des traitements préférentiels pour certains, et après on nous dit oui, ça a fait perdre 22 milliards et tout, donc on demande à la population de en réalité c'est ce qu'on fait, hein, on demande à la population de cotiser pour le problème que certains ont causé, voyez-vous, parce que certains ont contribué à avoir un gap, et au lieu donc de se retourner vers ceux-là, parce que certains ont fraudé les compteurs, parce que certains ne payent pas et tout, mais on demande à la population, oui, la population est là, bon, vous cotisez, on va boucher le trou. Voyez-vous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, on sait que depuis des années, au Togo, les salaires ne montent presque plus. Les salaires ne montent presque plus. Donc, quelqu'un qui, peut-être en 2020 ou en 2010, prend peut-être 60 000 francs par mois, et qui aujourd'hui a obligé donc dans cette dépense d'ajouter encore 12%, ne serait-ce pour payer l'électricité et tout. Vous conviendrez avec quoi que vous rendez pauvre ce monsieur ou cette famille, et ça déteint généralement sur la population. Voyez-vous, donc je crois que c'est un problème donc de gouvernance, que ce soit au sommet de l'État ou au niveau de la société. À un moment donné, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter, faire un audit, hein, donc de toute l'institution, poser donc les vrais problèmes et donc communiquer pour que la population soit au courant des faits. Ben, moi, j'ai l'impression que on pousse trop le Togolais à bout. Hein, on pousse trop le Togolais à bout, si bien que un beau matin, quand bon, lui aussi, il se fâche, bon, voilà quoi.
D'accord. Non, oui, peut-être aussi, ce qu'il faut relever, ce qui nous échappe, c'est que les prochains jours, on assistera à une flambée des prix des produits qui dépendent des prestations, qui dépendent de l'utilisation de l'énergie.
Ça, c'est clair.
C'est une conséquence naturelle, en fait, des choses. Oui, c'est une conséquence. On ne voit pas encore cet aspect. Aujourd'hui, nous parlons juste de l'augmentation du prix de l'électricité, mais la répercussion automatique, c'est l'augmentation. Le meunier va augmenter le
justement,
prix du bol pour écraser le bol du maïs, du mil, tout ce qu'on sait. Vous allez voir, peut-être pour les produits surgelés, le kilo, ça va augmenter, ça va flamber. La dame qui vend du jus à la maison pour faire des trucs, ça va, pour nos impressions de journaux et tout ça, là, les prix, c'est la conséquence naturelle de cette. Non, ça ne va pas se limiter uniquement à la hausse des prix de l'électricité, mais toutes les autres prestations qui dépendent en fait de l'utilisation de l'énergie vont également quand même.
Mais sur ce plan, est-ce que vous arrivez à comprendre le Togolais? Parce que au-delà de tout, on est là, on subit, et il y a un silence total.
Le Togolais va faire quoi? La décision vient d'où? Le Togolais, là, il doit subir. Et puis, par rapport à ce qui se passe à la société, à ces réformes, on dit que c'est le passage obligé pour que le Togolais ait plus de courant. Vous savez, vu que, en temps, il y a dans les réseaux sociaux, il y a un ancien DGA de la société qui a fait des révélations.
Justement.
Mais lorsque ça s'est passé, on dit que depuis 6 mois, on a pris en compte ces révélations-là au niveau de la société. Et c'est pour cela qu'il y a ces réformes qui sont engagées. Et il y a des gens, les fraudeurs et certains agents profiteurs, ainsi que ceux-là, des complices, qui sont arrêtés. Aujourd'hui, ce qu'il faut revoir, pour que vous savez qu'entre-temps, on avait pour recruter un DG de la société. Et c'est déjà sur appel à candidature. Et c'est une seule fois que ça s'est passé avec le DG Feu Djeteli, qui a passé deux mandats à son niveau, parce qu'il a été élu et il a été coopté par rapport à son projet de développement de la société. Et lorsque vous déposez un dossier pour être recruté, c'est que on étudie ce dossier-là. Si ça répond, on vous recrute. Et si ça avait des objectifs précis, si vous n'atteignez pas ces objectifs, vous allez tomber. Donc, depuis que Djeteli a fini, on a pu lancer les concours les appels d'offres pour recruter un DG et un DGA. Mais on recrute les gens à la tête du client comme ça. C'est ça qui fait que certains, tout le monde profite Mais si tu viens pour gérer la société et que tu as un projet sur lequel tu es recruté, je pense que ces genre de choses-là vont changer. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais que si on pouvait revenir à ce système d'appel à candidature pour le recrutement des DG des sociétés d'État, parce qu'on avait dit ça, on a fait l'expérience au niveau de la CET, on devait le faire au niveau de la T2, mais ça n'a pas pu marcher au niveau de la T2. Et aujourd'hui, nous voyons comment la gestion se fait. C'est pour cela que par rapport à ces réformes qui sont entreprises au niveau de la CET, moi, je souhaiterais qu'on puisse ramener cette affaire de appel à candidature pour
avec
que,
un cahier de charges.
Avec un cahier de charges
bien défini.
Bien défini. Pour que le DG qui est là, on sait qu'il a un cahier de charges. Il a une feuille de route
D'accord.
qu'il doit suivre pour mettre de l'ordre dans la maison. Sinon, si on continue le recrutement des directeurs à la volée comme ça, on va continuer par avoir les mêmes problèmes.
D'accord, on va s'intéresser à un autre sujet. On s'intéresse à ce sujet-là que nous avons dans l'opinion depuis un temps et que nous appelons même le drame de Djarpanga. Estelle, et c'est vrai que quand on écoute cette histoire concernant ce drame de Djarpanga, c'est qu'il y a effectivement la gendarmerie nationale a réussi à mettre la main sur les présumés auteurs alors du crime odieux survenu le 13 mai 2025 à Djarpanga, chef lieu de la préfecture de Mo. Et c'était justement un crime sur une dame. Et il s'est fait que les présumés auteurs sont dans le rang, même d'ailleurs, de l'armée ou de la police. Comment vous appréciez cette information, Estelle?
Alors, permettez-moi d'abord de féliciter la police nationale pour le fabuleux travail de communication qu'elle fait depuis un certain temps. La communication est quasiment instantanée avec des informations assez précises. Donc, c'est elle-même qui a annoncé le drame la dernière fois et a donné également des pistes par rapport à une suspicion de deux de leurs agents, donc en promettant que les recherches sont en cours pour mettre la main sur les fugitifs. Donc deux jours après, elle est revenue encore faire la mise au point, comme quoi les deux suspects ont été appréhendés et ils sont passés aux aveux par rapport à la gendarmerie également, et de la gendarmerie, pour préciser les faits. Mais à l'annonce de la nouvelle, c'est le choc. En fait, c'est tellement choquant. Puis s'ils sont allés la veille, d'accord, c'est un meurtre carrément prémédité et ils n'ont pas pu opérer la veille parce que le mari de la dame était là. Ils sont revenus le lendemain pour commettre le forfait. Donc, ils ont été vus, mais ils ont simulé en fait quelqu'un était passé pour acheter l'une des marchandises de la dame qui les a vus. Mais ayant déjà commis le forfait, ils ne savaient quoi dire. Ils ont juste donné l'information au client comme quoi la dame n'était pas là. Mais ils ont été déjà vus. Donc après l'annonce, après que le corps de la dame ait été découvert, donc c'est l'alerte qui a été donnée que tiens, j'étais arrivé et j'ai vu telle personne, qui sont bien connus quand même du milieu, qui étaient là, ils nous ont donné ces informations et tout. Non, c'est comme ça que les recherches ont été lancées, on les a appréhendées et ils sont passés à l'aveu, comme on vient de le dire. Et pour quelle raison principale? C'est là où je tombe vraiment des nues. Comme quoi c'était pour préparer leur désertion de l'armée.
Est-ce qu'ils auraient besoin
de la police, en fait. C'est pour préparer leur désertion de la police et qu'ils ont remarqué que la dame gardait souvent une somme importante d'argent et auprès d'elle. Et c'est pour ça qu'on va commettre un crime prémédité avec tout ce qui va. On tue la dame pour l'effort qu'elle fournit. Peut-être, c'est Djarpanga, on connaît bien Djarpanga, le milieu, comment est-ce que c'est enclavé, tout ce qui s'en suit. Peut-être c'est l'une des femmes qui dessert peut-être la zone en matière de produits de première nécessité et tout ça là. Donc pour ses propres efforts, on va l'assassiner pour une cause de on veut déserter. Mais si vous voulez déserter la police, aujourd'hui il y en a plein qui désertent et qui sont là même parmi nous. Il faut aussi saluer la décision du chef de, d'état-major qui est en train de prendre des dispositions pour suivre en fait ces différentes personnes qui désertent l'armée parce que elles ont été formées au maniement des armes aujourd'hui, mais les reverser comme ça au sein de la société, ça devient un danger. Donc des dispositions sont en train d'être prises pour les canaliser, pour faire un suivi par rapport à tout ce qu'il y a comme insécurité. Non, si vous voulez déserter l'armée, ce qui vous reste à faire, vous le savez, selon les normes. Mais pourquoi aller ôter la vie à une personne juste parce que vous avez un projet de désertion? Et deux personnes, deux policiers formés par l'État togolais n'ont pas eu la présence d'esprit. Personne n'a su dire à l'autre, non, le forfait que nous allons commettre là, ça ne nous honore pas, étant donné que c'est nous qui sommes à la base chargés de la sécurité de la population. Nous ne pouvons pas constituer aujourd'hui plutôt un fait d'insécurité à cette population-là. Il faut sursoir à ce projet-là. On y pense, on va la veille pour exécuter. On n'a pas pu, on retourne le lendemain pour finaliser le forfait. Vraiment, ça a été vraiment, vraiment choquant. Mais après avoir dit tout ça là, ça ne doit pas nous décourager de soutenir en fait l'armée togolaise, les FDS qui font un travail vraiment phénoménal pour notre sécurité. Il y a toujours des brebis galeuses dans tous les corps. Mais au-delà de ça, il faut reposer la question aujourd'hui de comment est-ce qu'on appelle ça? L'enquête de moralité, en fait, auprès de toutes ces personnes aujourd'hui, par rapport à ces concours, est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est vraiment menée? Sinon, ça sort vraiment de l'ordinaire que quelqu'un qui est chargé d'assurer la sécurité des populations devient lui-même un brigand, devient carrément le contraire de ce qu'il est censé faire pour cette population-là. Donc, mettre au milieu aujourd'hui des recrutements, l'enquête de moralité, c'est vraiment important pour la sécurité des populations.
Tout à fait, oui. Mais c'est parce que c'est vrai que quand le libéral s'intéresse au sujet, c'est justement cette question que le journal pose hein, ce matin. Le journal écrit « Le drame de Diapanga lance le débat. Quelle enquête de moralité autour des nouvelles recrues dans les FDS ?»
Oui, je crois que l'on doit se poser cette question aujourd'hui parce que en parlant donc de Diapanga, je me rappelle encore de ce militaire-là qui a battu froidement le jeune Mohamed de Davidi devant son enfant parce que on est militaire, on porte une arme et puis bon, on va devant n'importe quelle situation, je peux dégainer et tout. Maintenant, lorsque vous prenez ces deux policiers, leur ministère, le ministère qui coiffe la police, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Donc, en réalité, ils sont censés protéger la population, les civils. Et donc, lorsque vous prenez donc, ces deux messieurs-là qui sont censés protéger la dame-là, c'est eux qui deviennent plutôt donc, les assassins, disons les termes, peut-être que ça peut choquer, de la dame. Et regardez de quelle manière ils ont tué la dame. C'est-à-dire
qu'ils
sont allés, ils ont pris donc un pilon pour assommer la dame. Imaginez un peu la manière, donc, comme généralement, bon, ceux qui, hein, bon, peut-être que pour rendre un peu la situation un peu, pour ne pas choquer, pour peut-être tuer les chats, il y a certains qui prennent les pilons et tout, pour assommer les chats et tout, ceux qui sont dans le domaine, quoi, ceux qui s'y connaissent dans le milieu, généralement, c'est la méthode. Lorsque vous prenez ces deux messieurs-là qui prennent un pilon et qui assomment une dame avec ce pilon-là et puis qui ramassent l'argent et qui partent parce qu'ils veulent déserter l'armée et la police, je me dis que c'est des voyous. C'est du grand banditisme, si on peut le dire ainsi. Et ils doivent subir donc la rigueur de la loi. Ils doivent véritablement subir la rigueur de la loi. Il faudrait que par ces deux-là, qu'on puisse déjà envoyer un message fort à ceux qui sont au niveau de la police et éventuellement au niveau de l'armée, qui pensent que parce qu'on a une arme et tout ça, et on peut commettre donc des crimes et des forfaits sans véritablement, ou peut-être se fondre dans la nature et tout. Parce que l'acte qu'ils ont posé, heureusement que, oui, la police a vite lancé l'alerte et tout ça, on a mis tous les corps en contribution. Et c'est la gendarmerie qui a pu donc les arrêter, bon, peut-être quelque part à Zanguera, selon les informations. Ça veut dire qu'ils ont même quitté les lieux jusqu'à ce qu'ils soient déjà à Lomé et tout. J'imagine, moi j'avais tellement eu peur parce que je me dis qu'ils portent des armes. Et donc, faudrait pas que, en descendant à Lomé, ils puissent aller peut-être commettre d'autres forfaits et tout. Et ce fond de la nature, heureusement qu'on les a pris. Maintenant, depuis là, on a trop de silence aussi. Il faudrait que ça soit vite fait, que ces messieurs-là soient connus véritablement donc, du public. Et donc, et tout ce qui va avec, qu'on les présente donc, devant. Je ne sais pas s'ils vont passer devant le tribunal
ça
militaire.
Le tribunal militaire.
Je
ne
sais pas comment ça se passe.
Aux assises.
Je ne sais pas trop si la puce, c'est un corps civil.
Oui,
c'est la police.
Civil,
je ne sais pas s'il doit passer devant le
tribunal militaire. C'est les assises.
Donc, qu'ils passent rapidement aux assises et puis que leur sort soit tranché. Quoi. Mais il faudrait véritablement que par cette date-là, on envoie un signal fort à tous ceux qui pensent que bon, on peut ôter la vie à être Togolais et puis bon, voilà quoi.
Mais quelle analyse vous faites alors de la situation?
C'est grave parce que c'est des gens qui ont sali le corps de la police. Ils sont envoyés à Djarpanga pour veiller à la sécurité, pour protéger la population. Et c'est des gens qui sont habitués à aller prendre la boisson locale chez la dame. Et comme ils préméditaient, ils mijotaient leur plan. Ça, c'est leur déclaration. Est-ce que réellement, ils vont quitter? On a dit qu'ils ont pris 400 000 ou 1 million pour les deux. 400 000 là, ou 1 million là, ça peut faire traverser là. Ils disent qu'ils voulaient fuir. Est-ce que ça peut payer un ticket d'avion pour fuir l'Afrique? Pour fuir le Togo? Donc, je pense que c'est des gens qui ont prémédité leur acte. Ils savaient que la dame faisait des gens. Et ceux-là qui ont fait ça, ce qui veut dire que après là-bas, lorsqu'ils sont venus à Lomé, c'est des gens-là qui devaient être des coupeurs de route. Ils vont se constituer encore en gang pour attaquer les gens, braquer même les gens en cours de route. Et cela, je dis que ça pose un problème de d'enquête de moralité lorsqu'on lance des concours de recrutement au niveau de la police ou bien des forces de sécurité et de défense. Puisque lorsqu'on lance concours, il y a des gens qui sont là, des délinquants qui sont là, des désœuvrés qui sont là. Ils disent, je vais tenter ma chance. Et lorsqu'il tente sa chance, on le prend. Lorsqu'on le recrute, protège la population et tu deviens même toi-même le bourreau de cette population. C'est que le jour-là, ils n'avaient pas d'armes à leur niveau. C'est un pilon. Ils ont demandé à la dame, vous vendez les pilons, alors qu'ils savent que la dame ne vend pas les pilons. La dame leur répond en tournant le dos, vous prenez le pilon, vous l'assommez. Quand quelqu'un est venu pour acheter, il demande d'après la dame, ils l'ont déjà tiré pour mettre quelque part, il dit à la personne que la dame n'est pas là. Jusqu'à la veille.
Et ça c'est criminel.
C'est criminel, c'est criminel. Puisqu'ils étaient arrivés la veille, c'est que le mari de la dame était là. Et ils n'avaient pas fait commettre l'acte. Le lendemain, ils ont encore calculé pour voir que la dame était seule, et sont venus commettre. C'est un crime prémédité qui ne doit pas rester impuni. Leurs photos sont passées sur les réseaux sociaux. Maintenant, on doit acter la procédure pour que, on ne sait pas actuellement où ils sont, s'ils sont au niveau de ce qu'on appelle au niveau de la police, de la police dans les guérites, ou quoi, qu'on les envoie devant le procureur pour répondre de les actes. C'est la cour d'assises qui
va... Donc, de la même manière que l'information a été portée par rapport au processus, c'est juste que l'information continue comme ça pour qu'on puisse suivre jusqu'à la fin.
Oui,
pour qu'on ne se dise pas que c'est resté comme un crime impuni.
Tout à fait.
Justement, j'allais en venir là parce que vous vous rappelez que lors de la période covidale, il y a également un membre donc des forces de sécurité qui a, disons les choses, qui a assassiné le jeune Dodiko Ati. Au niveau d'Adawa, vous vous rappelez?
Oui.
À l'époque, on nous avait dit que l'enquête est ouverte rapidement. Mais depuis là, est-ce que vous avez eu encore des informations là-dessus? Donc, pour une fois, il faudrait véritablement que la procédure soit actée rapidement.
D'accord.
Qu'on ait l'information sur ce que, sur leur condamnation.
D'accord. Je voudrais qu'on termine cette émission avec cette guéguerre au sein de l'opposition togolaise. Et il y a le journal, bien sûr, le journal Le Libéral qui titre aujourd'hui le politique, le gros tacle de Nathaniel Olympio à Jean-Pierre Fabre. Et effectivement, on lit cette publication même d'ailleurs de Nathaniel Olympio qui écrit au Togo, congrès de l'ANC ce samedi, Jean-Pierre Fabre déclare déclare « Chers camarades, le système RPT uni prospère sur nos querelles. » Et seulement sur les querelles, et c'est la question posée, je pense plutôt que c'est essentiellement sur le mauvais leadership de l'opposition. Jean-Pierre Fabre, qui a longtemps combattu le régime, est devenu un obstacle à la lutte à cause de l'incohérence de ses choix et la poursuite d'intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. Alors, Estelle, et quand on suit cette réaction de Nathaniel Olympio à l'égard alors de Jean-Pierre Fabre, ça veut dire que, au sein même d'ailleurs de l'opposition, les querelles continuent.
Oui, c'est eux-mêmes qui le disent. Ça vient d'eux-mêmes, ça, c'est entre l'opposition. C'est deux opposants qui se tiennent ces propos-là. Bon, nous, on ne fait qu'observer. Puis c'est ça devient un peu récurrent. D'accord, je me rappelle encore de la sortie de Robert Olympio, monsieur je m'en fous, qui avait martelé ça. Il y a eu plusieurs départs au sein de l'ANC et les raisons évoquées, on parlait également du leadership et d'une vision un peu étriquée, centrée sur la personne de Jean-Pierre Fabre. Là, c'est un de ses collègues qui martèle de la manière la plus directe possible, c'est-à-dire sans porter les gants, qui le dit, que voilà ce qui se pose comme problème. À un niveau, je crois qu'il faut se remettre en cause. Voici une personne, deux personnes, trois personnes portent-elles ces accusations? Qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Et revoir. Ou peut-être ce sont ces personnes-là qui se trompent. Mais eux tous, ils sont de l'opposition. Donc, ils peuvent se retrouver, comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Ils peuvent se retrouver, rectifier le tir pour lutter. Sinon, nous sommes à la veille d'une élection municipale. Unir investit déjà le terrain. Hein. Les préparatifs sont en cours. Mais c'est maintenant que les querelles commencent entre l'opposition. Après, on reviendra quand les résultats seront là. On dira que Unir a fait ici. Unir a fait ça pendant que les gens étaient en train de préparer les élections. D'accord. Vous étiez en train de vous quereller par rapport à une question de leadership et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est entre eux, on observe et la suite, on verra.
Ah ben, cette réaction de Nathaniel Olympio, est-ce que cette réaction vous surprend?
Ils se connaissent. Vous savez, celui qui a commencé par combattre ce qu'on appelle la constitution, Front touche pas à ma constitution. C'est Nathaniel Olympio qui a mis ça en place. Mais quand les autres ont formé leur collectif, bien leur
regroupement,
est-ce que Nathaniel Olympio a été associé? Non. Ce qui veut dire qu'entre eux, il y a des gens qui sont écartés. Ils ne veulent pas travailler ensemble. Il y a certains qu'on ne veut pas voir. Je ne veux pas te voir dans mon regroupement. Je ne veux pas travailler avec toi. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Nathaniel Olympio sort de toi et attaque frontalement Jean-Pierre Fabre pour dire. Mais c'est le leadership donc qui se passe, que vous avez fait, qui nous fait traîner, qui nous fait perdre la lutte. Et j'ai vu des réponses des responsables de l'ANC envers Nathaniel Olympio. Donc, ça veut dire que la guerre continue, le combat continue, le combat d'idées continue. Heureusement qu'on n'en vient pas aux mains, mais c'est frontal que ça commence. C'est que je vois qu'il y a certains qui disent que si je le vois En pleine circulation, je vais l'arrêter et je vais lui dire les quatre vérités.
Non, on va parler de cela quand même.
Non, écoutez, tout cela dénote qu'au sein de l'opposition, il y a anguille sous roche, il y a beaucoup donc de frustration. Il y a beaucoup de frustration qu'aujourd'hui les gens commencent à extérioriser. Donc voilà, on s'en sentit à ces faits-là. Mais ça devient véritablement puéril lorsque vous écoutez les réponses et tout ça, telles que Abbas vient de le dire, certains qui disent si je le vois en circulation, si je le vois donc en chemin, je vais le lui dire. Alors s'il le lui dit et que l'autre ne l'a pas bien encaissé, vous verrez que on peut même en venir aux mains dans la rue. On se dit c'est deux opposants qui se battent dans la rue. Non, écoutez, ça devient véritablement puéril. Et puis bon. L'opposition, voilà, depuis un moment, nous donne plus satisfaction. Et puis bon, voilà.
Ok, nous allons arrêter là pour ce qui concerne le débat. On va donner la parole aux auditeurs. C'est le principe de l'émission. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35, 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission. Nous reprenons l'antenne et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous, nous écrire. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Johannes.
Johannes.
Oui.
D'accord, allez-y.
Je voudrais certainement intervenir sur cette affaire de Dark Manga pour dire que depuis que moi j'ai écouté les communiqués officiels, moi personnellement, je doute beaucoup de la vraie raison de cet assassinat en fait. Moi je me dis qu'il y a peut-être une autre raison. Et bon, peut-être en jugeant, ça pourrait peut-être ne sais pas porter atteinte, une atteinte plus, je ne sais pas. Le Dieu à l'image de la police. Je me dis qu'il y a une autre raison, en fait. Que des dits qui voulaient déserter, puis ils sont allés tuer la dame. Bon. Pour des gens qui ont ce plan, un plan comme ça, je me dis, est-ce que, pourquoi, bon, ce n'est pas pour leur donner, pour dire qu'ils auraient pu le faire comme ça, mais c'est étonnant que ce soit en pleine journée qu'ils décident d'aller commettre ça. Je suis un peu intrigué de ce côté, parce que, les gens qui viennent violer quelqu'un, la plupart du temps, c'est la nuit. Et puis, bon, qu'il aille en pleine journée, bon, moi personnellement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Mais pour le moment, on tient à ce qu'ils ont dit.
La raison officielle donnée.
Et pour finir, il faut quand même dire, préciser que, contrairement à ce que Estelle avait dit, il y a une différence entre déserter et démissionner de l'armée. Du corps à vivre. C'est une différence. Vu que les gens ont déserté, circulent librement, je ne pense pas que les gens puissent déserter, circulent librement le même. Parce que la désertion, c'est un délit. Dans toute armée du monde, la désertion, c'est un délit.
D'accord,
c'est différent de démissionner de l'armée.
Tout à fait. Merci beaucoup, Johannes. Bonjour, le plateau. La lecture faite par Estelle concernant le leadership au sein de l'opposition ne justifie en rien les scores soviétiques d'UNIR. Après chaque élection, UNIR ne gagne pas parce qu'il investit le terrain, mais parce que les conditions d'organisation des élections ne reflètent pas la transparence et l'équité. C'est Madiba qui nous écrit. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô? Bonjour, Pascal.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, togolaisement. Hein.
D'accord, allez-y.
Bon, mais c'est là où vous venez de chuter, c'est là où moi je voudrais intervenir à propos de ça. Qu'on dise que les opposants, ils se feraient là entre eux, que l'UNI est déjà sur le terrain, en train de travailler, c'est ça qui les fait gagner les élections. Il y a des choses que Togo, nous sommes tous vraiment des gens qu'on ne peut jamais comprendre. Ces élections se déroulent devant nous. Ces élections se déroulent devant nous. Comment ça se déroule, on voit. C'est à coup de goudet, de menacer, de tout ce que, de bourrage. On fait ces élections. Pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est parce que les opposants se feraient là-bas? Et que l'UNI est en train de travailler pour venir gagner les élections. Quelle est l'élection dont on nous parle? Non. C'est-à-dire que, des fois, quand on vous écoute, ça fait mal. Merci.
Merci, Basile, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Ce meurtre montre à quel niveau la souffrance du peuple est arrivée et que les gens sont capables de faire de n'importe quoi pour survivre. Bonne émission, c'est Essor qui nous écoute depuis Cara. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, ça va. Et chez vous?
Ça peut aller aussi.
C'est Patrick.
C'est Patrick Ali.
L'autre commandant.
Je salue le deuxième commandant. Puisque le premier, sans Gaou aussi à l'écoute, je le salue.
D'accord.
Et moi-même, je suis le troisième. Donc, je salue mon deuxième commandant au plateau là-bas.
D'accord. Il te salue aussi.
Je salue les autres journalistes aussi.
Merci.
Gardien est toujours là ou bien
il est déjà parti.
Aïe. Bon, quand même, il est passé, mais je vais placer 2 mois. Hein.
Oui, d'accord.
Parce que tout ce qu'il a eu à développer, c'est tout à fait normal et véridique. Vous savez, je prends mon cas, hein, je vais être bref. Au moins 4 jours sur 7, je pratique le sport. Mais après 2 ans ou 3 ans, j'ai constaté que il y a un petit problème au niveau de mon corps. Comme quoi je prenais les antidouleurs, tout ça là. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que après consultation que je me suis rendu compte que, au fait, le médecin m'avait dit qu'il m'a demandé si je pratique le sport à haute intensité. J'ai dit oui, oui. Mais le problème, c'est que mes os manquaient du calcium et du magnésium. C'était ça le problème. Alors que moi, je traitais autre chose à la place. Un peu. Donc, trop de sport, c'est bien. Mais à force de faire le sport à chaque moment, il faut essayer quand même de voir la nourriture des os. Je voulais conseiller les uns les autres, quoi. La nourriture des os, parce que c'est important, parce que les os interviennent plus au moment du sport. Donc, il faut les nourrir aussi. Et il y a 5 choses aussi, il faut compléter, qui ne se vendent pas à la pharmacie, mais qui sont très, 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 très bons pour notre organisme. C'est 5 choses rapidement. Il y a les fruits. Ça ne se vend pas à la pharmacie. L'activité sportive, qu'on vient de parler, le rire, le sommeil et l'eau. Les 5 choses ne se vendent pas à la pharmacie, mais l'organisme a besoin de ça. Pour finir, l'affaire de Dalpanga, là, j'aimerais quand même demander au ministère de la protection civile de mettre à disposition les 2 éléments là à l'égard du ministère des armées pour que les 2 là puissent aller assommer aussi les djihadistes qui sévissent au Grand Nord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Ce que M. Nathaniel Olympio dit ne surprend pas le peuple togolais, même certains partis politiques. Il a dit ce que tout le monde dit plus bas. C'est ce que les membres de l'ANC faisaient dans l'UFC dans le temps et ne voulaient pas aller à aucune négociation. En tout cas, ANC est un parti des hommes, grenouilles, sous-marins. Bonne émission. C'est M. Nyamaku qui réagit. 90, 86, 35, 35. Allô? Bonjour, madame Issy. Oui, madame Issy, bonjour.
Fais coucou à Sat.
Oui, ça se vous répond. Il est à l'écoute. Absolument.
Abi Alpha. Et puis, toujours dans nos problèmes de non-alternance, 5e République, ils nous perdent le temps. On nous perd le temps dans ce pays. Et puis, voilà. Hein, les dirigeants. On braquait la République jusqu'à ce que... Ce qui s'est passé à Dalpanga, là, c'est parce que les gens ont braqué la République et juste seul de bien que tout le monde est appauvri et les gens ont faim. Ils vont tuer les autres pour avoir de l'argent, pour survivre, quoi. C'est pas bon, hein. Mais si on alternait, il n'y aurait pas tous ces désordres. Cette dépravation de mœurs, hein, vous voyez. Et moi, je ne comprends pas. Et puis, pour l'histoire de l'ANC, le seul parti jamais collaboré qui combat la dictature militaire depuis la nuit des temps, que l'on vilipende aujourd'hui pour l'affaiblir, le détruire et tout, on sera tous dedans. Les Togolais ont vu ça où? Où il y a un opposant qui est là, qui combat, qui fait le plus fort de la dictature, persécuter, assassiner, blesser les militants et tout. Et puis les gens se lèvent un matin et puis se jettent sur eux. Vous avez vu ça où, dans quel pays dictatorial en Afrique? Moi, j'ai jamais vu ça. Ce qui se passe ici, là. Mais est-ce qu'il y a ce qu'on sera tous dedans? On va tous périr dans la dictature militaire, là. Qui nous écrase. Merci
madame ici pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Cette augmentation du prix du kilowattheure n'est pas normale. Quand on s'en tient à la déclaration du DG adjoint, il y a trop de dilapidation des fonds publics par les dirigeants pour leurs besoins personnels. Les Togolais sont stressés, malades avec tous ces événements qui se passent dans le pays. C'est Ibrahim qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 315. Allô?
Allô? Oui, allô, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, je vais bien.
Oui, votre nom c'est
Anathema.
Ah, Anathema.
Oui.
Et s'il vous plaît, diminuez.
J'ai deux préoccupations.
Oui, s'il vous plaît, la radio qui est plus proche de vous, là, diminuez.
Je vais parler d'abord pour la CT. La CT, telle que vous avez, vos collègues ont parlé là-bas, je vais tirer chapeau. Mais ce que Tanyao a dit, que c'est quoi, pourquoi, tout ça là. Si les gens ont consommé et on les connaît, eux, ça, à cause de qu'on augmente les 12% pour la population, ça ne peut pas aller comme ça. Les gens là sont là, ceux qui ont consommé sont là. on va directement vers eux, c'est eux qui doivent régler la dette et non la population. Vous allez au Ghana, là, la société et au Togo, là, vous voyez, c'est rien que les araignées comme Esther l'a dit. Personne n'a le compteur chez lui. Et tout le temps, il y a les voleurs qui coupent les fils. Il faut aller toujours à la cité. Et ça, là, c'est la cité, ça. Moi, j'ai dit que si moi, on me nommait DG de la cité, là, je vais faire un prêt. Tout le monde aura le courant. Un seul fil même, extension là, c'est un seul fil, on va brancher comme ça là. Si on est dans tous les quartiers, tout le monde va brancher. Est-ce que ça c'est compliqué ça? Et dans tout de suite là, les gens ont payé, et tout de suite là, on va payer la dette. On reprend encore une autre dette. Pourquoi le Togo? Pourquoi le sommet de l'État punit la population comme ça? Ce n'est pas normal. Même la deuxième procréation, c'est pour parler directement avec les policiers là. Vous savez, celle qui vient de dire là, c'est la misère. Au Togo, là, c'est la misère. Ces policiers-là, ils n'ont pas besoin de faire ça. Depuis combien on paye les gens au Togo? Les salaires sont restés comme ça. Qu'est-ce que ça, là? Ce n'est pas moi.
Mais ceci... ceci n'explique pas cela.
Oui.
Allô?
Oui, allô.
Oui, mais je dis, ceci n'explique pas cela. C'est-à-dire, on parlera pas de la misère pour aller jusqu'au meurtre.
Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, on a quitté le péage là, on a quitté de 300 et on est monté à 500 et autres en allant. Est-ce qu'on a accompagné quelque chose qui devait se faire? Quelle mesure accompagner à la population? Les autorités sont là, elles ne payent pas péage. C'est l'avion.
D'accord,
c'est le souffre, qui saigne. On a braqué partout.
D'accord. Merci Natima pour votre intervention. Je pense que Natima c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi. Je lis cette réaction. Bonjour Canal FM. Merci à Estelle par rapport à son intervention sur la société et surtout les citoyens qui n'ont pas de courant. Est-ce que vous savez que la société ne respecte pas sa promesse de 60 jours pour servir les clients après que les clients ont payé l'heure de vie pour l'extension des gens attendent depuis 2023 pour être servis. La société ne vient pas et pourtant ils ont pris l'argent. C'est Georges Hérault qui nous écoute. Chers confrères, nous revenons en plateau pour un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce mercredi. Sylvestre, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité. Votre réaction ou si vous le voulez bien, vous pouvez revenir sur un titre, même d'ailleurs aussi, de votre parution de ce jour.
Non, je crois que nous n'avons plus suffisamment de temps, hein, sinon on aurait pu revenir sur le sujet concernant laquelle des photos mettre dans les administrations, est-ce celle donc du PA ou du PC. Mais nous avons quand même écrit sur ça aujourd'hui, le journaliste sur le marché et aussi le président qui semble être déjà mal à l'aise avec sa constitution. Donc, nous avons évoqué cette
question. Vous parlez de quel président?
Oui, le président du Conseil. D'accord. Puisque nous en avons deux aujourd'hui.
Il faut la précision.
Le président du Conseil de la République togolaise. Voilà, ça a un peu changé depuis quelques jours. Donc, voilà. Et je crois que le confrère Tchagnao n'est pas quand même sur ce plateau. Il y a un auditeur qui disait que ce que Tchagnao dit là-bas, Tchagnao n'est pas sur le plateau. Il faut laisser le président tranquille, là où il est. Bon, coucou à lui, donc il n'est pas sur le plateau, il n'a pas évoqué le sujet avec nous. Donc voilà ce que je peux dire. Bon appétit à tout le monde.
Merci beaucoup, Sylvestre. Oui, Estelle?
Et je voudrais remercier l'auditeur qui... Tu voudrais bien me donner son nom pour le citer nommément, pour le remercier.
En fait,
il y a eu un lapsus, voilà. C'est plutôt démissionner de l'armée et non déserter, c'est Patrick.
Oui.
Merci beaucoup à M. Patrick pour avoir rectifié le tir. C'est vraiment démissionner de l'armée, non déserter. Déserter, vraiment, ça devient
Patrick,
une infraction.
C'est plutôt Johannes, le premier auditeur.
OK. Donc, merci quand même à l'auditeur qui a tenu à rectifier le tir. C'était un lapsus lingueux, comme on le dit. Non, c'est vraiment démissionner de l'armée et tout. Voilà ce que je voudrais dire des interventions. D'accord. Merci à toutes et à chacun.
Merci beaucoup, Estelle. Abbas?
Aujourd'hui, Estelle, au moins, j'ai réagi par rapport aux commentaires de
c'est un remerciement.
Non, je voudrais dire que les réformes qui sont engagées pour que le Togolais puisse avoir du courant, à plein temps au niveau de la société puisse aller jusqu'au bout, que le gouvernement tienne le bon bout, afin que nous puissions aussi être satisfaits de la gestion et de la gouvernance au niveau de la société. Au niveau concernant le maire de Diakpanga, il y a quelqu'un qui disait, il a dit que j'ai oublié ce qu'il a utilisé, mais c'est qu'il faudrait que les enquêtes, pas même les enquêtes, maintenant c'est l'instruction, c'est déjà entre les mains au niveau de la justice ou au niveau de la police, bon, que de la gendarmerie, que ça puisse être vite fait et que on puisse, que ceux-là puissent servir d'exemple à d'autres là qui vont suivre le pas. Parce que au départ, quand on avait dit que c'est des policiers, moi j'avais cru à de faux policiers. Et finalement, on nous a situés avec leurs photos que c'est de vrais policiers qui ont commis ces actes. On a souvent, on voit souvent certains qui se mettent sur la route en tenue militaire, en tenue de la gendarmerie, en tenue de la police, pour braquer. Et je pense qu'il faudrait qu'aussi, à ce niveau, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense puissent aussi faire tout pour qu'on puisse démasquer ces faux policiers-là qui deviennent même des coupeurs de route et qui s'attaquent aux petites populations qui voyagent tranquillement.
D'accord. Abbas Issaka, merci pour votre intervention et merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Merci Stelle Koudzonou d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal.
Merci Pascal, le plaisir est pour moi.
Gazé l'info, merci d'être passé dans cette émission.
Elle est contente quand on dit qu'elle est directeur.
Justement. Merci beaucoup Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette. Ces journaux sont dans les kiosques ce matin. Vous pouvez aller acheter ces journaux pour les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Kiki Sosaki a assuré la mise en monde. Jérôme Dakouté a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je ne serai pas avec vous demain et vendredi, mais David Aboiti sera là et moi je reviendrai plutôt le lundi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.